l'instant, Louis, tu nous disais pourquoi, selon toi, c'était Marianne, la femme de l'année politique 2012, ou celle qui aurait dû l'être plus tôt. Il est temps maintenant, comme Caroline tout à l'heure et comme Thibaut et Amos la semaine prochaine, que tu nous livres ton bilan politique de l'année 2012.
Il s'agit ici de dresser le bilan de l'année 2012. Année, bien sûr, de la victoire de la gauche et peut-être, paradoxe, année réactionnaire. Le changement, c'est maintenant, se demandait François Hollande à la veille des élections présidentielles. L'année 2012 s'achève, année de crise, année d'espoir aussi. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Russie, au sud de la Méditerranée, en France, des élections donnèrent à chacun l'occasion de secouer le joug qui l'oppressait, de pénaliser les politiques imprévoyants, rancis et sectaires, d'écarter les fauteurs de troubles jouissant de privilèges exorbitants pour appeler au pouvoir des hommes neufs. Si, bien sûr, en démocrate, nous nous inclinons devant le résultat des urnes, laissez-moi en revanche m'étonner qu'aux quatre coins du monde et d'une seule voix, Américains du Nord et du Sud, Russes et Égyptiens, aient choisi de signer un nouveau blanc-seing à ceux-là même qui nous avaient conduits dans l'impasse et profité de notre détresse. Ce fut d'abord en mars le retour du controversé Vladimir Poutine, puis l'élection, trois mois plus tard, de l'islamiste Mohamed Morsi, haut dignitaire de l'organisation terroriste des Frères musulmans, dont les ramifications entretiennent depuis près de 100 ans un climat de violence en Égypte, et le soutien aveugle, en octobre enfin, du peuple vénézuélien à la dictature mafieuse d'Hugo Chavez. Les Français se choisissent en mai un nouveau président et, à défaut de renouvellement, offrent la fonction suprême à un éléphant pâteau qui hante depuis 1983 les ministères socialistes et dont le fait d'armes notable en 2012 fut d'offrir un espace politique à l'archaïque Parti communiste français, condamné, nous semblait-il encore l'année dernière, à figurer parmi la collection du musée des horreurs du XXe siècle. Les veilles de Noël appellent cependant à quelques mansuétudes, aussi nous semble-t-il un peu tôt pour tirer le bilan d'un mandat présidentiel qui ne fait que débuter. Certaines tendances s'annoncent déjà, certes, mais là encore, derrière les velléités, ce semble être les vieilles recettes éculées que la paresse de nos élus annonce comme cap des quatre prochaines années. Faute de savoir apporter ordre et prospérité, de réconcilier les Français, nos dirigeants cèdent par électoralisme aux pressions communautaires, s'apprêtent à accorder aux couples homosexuels la possibilité de se marier, demain d'adopter et aux étrangers le droit de vote. Alors, l'imagination au pouvoir ? Loin s'en faut. Il n'y a là que ressucée mitterrandienne, désuète, de 30 ans d'âge. Ainsi, M. Montebourg, ministre du redressement productif, brandit la menace de nationalisation d'entreprises pillées par des consortiums étrangers, sans se donner les moyens politiques de donner corps à cette initiative appréciable, certes, mais qui fleure bon la nostalgie socialiste à l'efficacité douteuse. J'ai enfin une pensée émue pour Mme Duflot, qui se rêve en parangon de la libération des mœurs, oubliant qu'en 1976, Libération réclamait déjà la dépénalisation du cannabis, tempérant avec l'appel du 18 juin la bêtise démagogique du propos, du brin d'humour qui fait malheureusement tristement défaut à notre ministre du Logement. Le camp socialiste nous avait promis en mai une république irréprochable. Qu'en reste-t-il en cette fin d'année, lorsque le parti désigne en septembre comme premier secrétaire M. Harlem Désir, un repris de justice notoire, condamné à la prison pour recel d'abus de biens sociaux? Que le Premier ministre lui-même écopa en 1997 d'une peine avec sursis, et qu'enfin le président en personne viole désormais la sacro-sainte séparation des pouvoirs lorsqu'il intervient dans un procès que sa belliqueuse campagne intente aux auteurs d'une biographie dont l'esprit n'eut pas l'heure de satisfaire les vanités des maîtres de l'Élysée. La force de l'habitude s'empare peu à peu de nos nouveaux maîtres au fur et à mesure que s'éloignent les bonnes résolutions de mai. La gauche, privée trop longtemps du pouvoir pour n'en avoir pas oublié les ruses et les pratiques, apprendra à se débarrasser des maladresses et des fausses notes qui grippent encore la machine gouvernementale. Je ne m'inquiète pas de la forme, mais du fond. Tout ce que nous demandons, nous les sceptiques, prêts à reconnaître toutes les bonnes volontés, c'est qu'à l'apathie succède l'audace, au conformisme l'impertinence. Nous voulons l'équité dans les coups durs comme dans la prospérité. La fin, et à Lyon, j'espère que ces propos ne résonnent pas en vain, des logiques féodales entretenues par quelques barons locaux assis sur leurs privilèges. Nous voulons estimer nos chefs et nous voulons qu'ils méritent notre confiance. Je reconnais dans le conservatisme frileux notre pire ennemi. 2012 y a trop cédé. Je souhaite que nous puissions à l'avenir tirer leçon de notre paresse et de nos échecs.
Merci Louis.